va bien adoucir nos cœurs aussi. Et ça se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Et nous lirons du verset 2 jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 2 jusqu'au verset 16. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, mais comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux ? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier tout simplement parce que nous avons encore l'occasion de nous plonger dans ta parole. Nous avons l'occasion de connaître ta volonté, de savoir ce que tu veux que l'on sache encore aujourd'hui. Et Seigneur, nous te remettons tout simplement nos cœurs, nous te remettons notre âme. Que Seigneur, tu puisses soigner, guérir notre âme, que tu puisses la faire prospérer, que tu puisses nous faire marcher selon ton esprit. Seigneur, nous savons que ton esprit ne porte que du fruit qui est bénéfique pour nous, de l'amour, de la joie, de la paix, de la bienveillance, de la patience, une maîtrise de soi. Et Seigneur, toutes ces belles choses, il n'y a aucune loi qui est contre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons simplement la vivre, non seulement dans notre Église, mais aussi au milieu des hommes. Car, Seigneur, c'est ce qui va apporter eh bien, ce salut que tu as annoncé, que tu nous fais vivre. Cette vie éternelle que nous avons aujourd'hui. Seigneur, que notre vie soit un témoignage de ta vie. Et aujourd'hui encore, apprends-nous à marcher comme toi. Apprends-nous à te ressembler. Et que toute la gloire te revienne dans ce qui va être dit aujourd'hui. Parle, Seigneur, car c'est toi qui es maître de toutes choses. C'est en Christ que je fais cette prière. Amen. Alors pour redonner un peu le contexte, dimanche dernier, nous avions abordé le verset premier de ce même chapitre. Et le verset premier, très pratique, nous disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et c'est un modèle qui va nous servir de repère pour toute la suite. C'est-à-dire que quoi que nous fassions, il faut observer si on imite bien celui qui imite Christ, donc si on imite Christ. Et c'est surtout ça le centre de l'enseignement. En effet, le problème des Corinthiens, c'est qu'ils ne considéraient plus Christ comme le repère de leur vie. Ils se mettaient à s'appuyer sur la sagesse des hommes, sagesse que Dieu avait déjà déclarée comme étant une folie. Et Paul dit simplement, plutôt que d'imiter la folie des hommes, imitez-moi, imitez Christ. En effet, si nous imitions tous Christ, nos problèmes et les problèmes dans l'Église se résoudraient en très très peu de temps, voire il n'y aurait pas de problème tout court. Mais comme on essaie toujours d'imiter la sagesse des hommes, lorsque l'on lit la parole de Dieu, c'est des choses qui créent des problèmes. Et quand il y a des problèmes entre les Églises, très souvent, on regarde que les dissensions viennent du livre de 1 Corinthiens. Non ? C'est sur là que tout le monde est désaccord. Pourtant, c'est un livre qui pousse à quoi ? À imiter Christ et à donc à régler les problèmes avec Christ au milieu. Seulement, nous préférons toujours agir à notre façon, plutôt que d'agir à la façon de celui qui a satisfait Dieu en tout point, c'est-à-dire Jésus-Christ. Malgré l'évidence de la sagesse de Christ, nous préférons imiter, comme on l'a dit, la sagesse des hommes, les philosophies qui mettent en avant l'homme, chacun cherchant à se démarquer par sa propre pensée. Moi, je pense que. Moi, je me dis que, chacun créant son parti, ne pensant pas à l'autre, mais pensant à d'abord ce que lui pense, son avis. On ne veut pas mourir à nous-mêmes. Et vous savez, imiter quelqu'un, c'est quand même mourir à soi-même. Parce que si vous imitez quelqu'un, vous perdez un petit peu de vous-même. Et quand vous imitez Christ, c'est vrai que vous perdez de vous-même. Mais tout à l'heure, on a parlé d'un baptême. Ceux qui sont baptisés, quand ils sont plongés dans l'eau, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que je suis mort ? En qui ?
En
Christ, avec Christ. Mais je suis aussi ressuscité. Donc je marcherai avec qui ? En Christ. Et c'est le témoignage que nous rendons lors du baptême, d'une vie que nous avons réellement pratiquée. Mais quand nous disons que nous pratiquons ce baptême, nous engageons aussi à le faire. Et c'est ce que nous devons faire ici. Chacun, marchons comme Christ. Ce que la parole nous demande, c'est de mourir à nous-mêmes, ne pas se soucier de nos sentiments, mais plutôt de laisser les sentiments, l'attitude qui était en Christ, vivre en nous. Chacun donnant sa vie pour les autres, se dépouillant plutôt que de dépouiller les autres. Et c'est, comme nous l'avons vu, ainsi que Paul vivait sa vie. Ce que la parole nous a ordonné, c'est d'imiter Paul. Imitez-vous aussi le Christ. Ce que Paul a compris, et que nous avions vu la dernière fois, c'est que sans imiter Christ, être agréable à Dieu est impossible. Car, on l'a vu, il est le seul à pouvoir être agréable à Dieu. Le seul qui était totalement dans ses gestes et ses attitudes à la gloire de Dieu. Paul nous demande donc de glorifier Dieu en imitant Christ. Et voici un résumé du principe de la vie de Christ, d'une vie à la ressemblance de celle du Christ. C'est les versets qui sont juste avant, à partir du verset 31 du chapitre 10. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ce que faisait Christ. Il n'y a rien qu'il ne faisait pas qui n'était pas pour la gloire de Dieu. Ensuite, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses à complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. C'est la vie de Christ. C'est la vie de Paul. Il le dit. La question, est-ce que c'est notre vie ? Lorsque nous ouvrons la bouche, l'avantage de qui cherchons-nous ? Est-ce que c'est le nôtre ? Est-ce que nous cherchons à attirer les gens en disant « Ah, mais c'est pour moi que les gens doivent vivre. C'est parce que c'est mon avis, c'est ma pensée, c'est ma culture, c'est mon origine. Et chacun doit s'adapter à moi. » Mais ici, même Dieu s'est adapté à nous. C'est pas ça ? Il s'est fait quoi ? Homme. Et nous ne sommes pas capables de nous adapter aux hommes. Pourtant, nous devons imiter Christ et nous adapter aux hommes. Mais est-ce que Christ a péché en s'adaptant aux hommes ? Pas une seule fois. C'est pour ça que nous pouvons aussi nous adapter aux hommes sans péché. Ne pas être en scandale à qui ? Aux Grecs, aux Juifs et à l'Église de Dieu. Tout faire pour la gloire de Dieu, arriver à la fois à la glorifier Dieu et à complaire à tous. Voilà une chose qu'on ne sait pas faire. Parce que soit on veut glorifier Dieu et puis on écrase les gens, soit on veut se complaire à tous et on ne glorifie pas Dieu. Mais Dieu va nous enseigner à allier les deux, c'est-à-dire à annoncer son salut tout en vivant quoi ? Eh bien la sainteté au milieu des hommes. Comment alors imiter Jésus-Christ dans les cas qui sont exposés ? Comment ne pas répondre par des discours qui ne servent qu'à remplir la tête, à diviser, à des rivalités, mais plutôt édifier dans l'amour, comme Christ a fait, un enseignement pratique, comme Paul l'a donné aux Corinthiens. On apporte des solutions aux problèmes. On ne discute pas des préceptes, on les applique. Et c'est ce que font toutes les églises de Dieu, qui remettent Dieu comme celui qui doit être la source, le centre de tout. Pas d'autre pensée que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Sauver les hommes, voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Et nous, quel message amenons-nous dans le monde ? Quel message amenons-nous dans l'Église ? Est-ce que c'est le salut des hommes ? Ou est-ce que c'est nos idées ? Lorsque nous mettons en avant notre liberté, bien souvent nous ne nous soucions pas du salut des autres, mais nous voulons faire valoir nos droits, notre connaissance, notre pensée. Et c'est pour ça que Paul, au chapitre 8, verset 9, quand il parlait des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il y avait ce débat, on mange ou on ne mange pas, il a dit quoi ? Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Le plus important, ce n'est pas la liberté, c'est quoi ? C'est ceux qui sont faibles. Mais nous avons toujours ce combat de vouloir paraître, de vouloir nous distinguer. Sachez que Christ s'est dépouillé et n'a pas voulu se distinguer. Il s'est fait serviteur, il n'a pas voulu apparaître comme ce qu'il est vraiment, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et quelle attitude donc devons-nous avoir ? Imiter Christ, imiter Paul. Si on prend 1 Corinthiens chapitre 2, dans le début du texte, on voit que les Corinthiens retenaient bien les instructions de Paul. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 11, 2. Il dit, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Ah, ils ont quand même droit à un compliment, les Corinthiens, parce que depuis, là, c'était quand même difficile. Mais ils avaient quand même la capacité de faire quelque chose, de se souvenir de Paul et de retenir quoi ? Les instructions. Donc, ils savaient ce que Paul leur avait donné, ses instructions. Et le problème n'est pas vraiment là. Le problème, c'est que Paul leur dit, « Maintenant, vous connaissez les instructions, vous vous souvenez de moi, mais il est temps de imiter. » Imiter, ce n'est pas juste savoir, connaître ce qu'il faut faire, mais mettre en pratique. Et on ne discute pas quand on imite quelqu'un. On regarde, et qu'est-ce qu'on fait ? On reproduit. Et c'est louable, ils retiennent tout. Mais le problème, c'est qu'ils mettent très peu de choses en pratique. Et les Corinthiens, eh bien, ont ce côté qui manque parfois dans nos vies chrétiennes. Nous connaissons beaucoup la parole, mais nous la mettons moins en pratique. Nous connaissons beaucoup de versets, beaucoup d'instructions, mais l'ordre de Dieu, c'est d'abord d'observer tout ce qui nous a été prescrit. Observer, et non pas juste se souvenir, non pas juste retenir, mais observer, mettre en pratique. Et c'est ce que Christ faisait. Il mettait en pratique tout l'ordre de Dieu. Voici, dans le message d'aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en pratique. Ok, vous vous souvenez de tout ça, vous avez retenu mes instructions, mais la suite, il dit, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas et que vous devez savoir. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Si Paul voulait qu'il le sache, c'est que peut-être il ne le savait pas. Ou du moins, dans la manière de conduire, il pensait autrement. Peut-être qu'ils inversaient. Christ est le chef de Dieu, la femme est le chef de l'homme et l'homme est le chef de Christ. Mais il y a un problème quelque part. Et il ne le savait pas, il va bien falloir qu'il leur dise, il y a un ordre. Et il y a une manière de vivre au milieu de l'assemblée. Je veux que vous sachiez une chose. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Que personne ne puisse dire dans l'Église, « Ah, je ne le savais pas. Ah oui, mais moi, je pensais autrement. Ah oui, mais peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. » Non, il y a un ordre, et c'est écrit. Mais jamais Dieu ne donne un ordre pour quelque chose qui soit en notre défaveur, normalement. C'est forcément en notre faveur. Et la question est de réfléchir à en quoi c'est en notre faveur. En quoi ça va nous édifier ? En quoi est-ce que je vais pouvoir marcher dans ma vie avec le Seigneur plus aisément, avancer vers un exemple qui est celui de Christ ? Eh bien, nous allons l'exposer en regardant chacun de ces points. Mais nous l'avons vu, verset 7, chapitre 11, ce chapitre, ou ce passage plutôt, se termine par « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. » Donc on ne va pas rentrer en contestation avec ce qui est écrit, on va plutôt comprendre pourquoi. Et pourquoi c'est si différent entre ce qui est écrit là et ce que l'on vit dehors. Parce que par contre, si on inverse, ça marche très bien dehors. Tout ce qui est écrit là, si vous l'inversez, ça marche dehors. On vit dans un moment où les gens ne veulent pas venir à Dieu parce que Dieu n'est pas à service de l'homme. Moi, j'ai demandé à Dieu et Dieu ne m'a pas donné. Mais dans cet ordre, on voit que celui qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. Et c'est lui qui doit être servi. C'est lui qui doit être écouté. Et nous allons voir donc les trois points. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Christ. Dans ces trois points, il existe quatre protagonistes dont les relations ont déjà été définies dans les églises. Il y a Christ, l'homme, la femme, Dieu. Et le mot qui va définir les relations entre ces quatre personnes, c'est le mot « chef ». Il se répète à chaque fois. C'est le lien. Mais qu'est-ce qu'un chef ? Quand vous regardez dans le dictionnaire, le chef, c'est celui qui a la fonction de prendre les initiatives. C'est lui qui initie. On a dirigé, commandé, gouverné. Ce sont les termes qui vont avec. Et donc, parmi ces quatre personnes, certains ont pour rôle de prendre des initiatives. Et ils ont pour statut de prendre une fonction d'autorité. Mais une fonction d'autorité qui est salutaire. Un chef a pour devoir d'assurer la protection, de pourvoir aux besoins, de s'assurer que ceux sur qui il a autorité sont en bonne santé. C'est le rôle du chef. Et dans le grec, le mot original nous aide beaucoup mieux. Parce que chef, c'est képhalé. Képhalé, c'est quoi ?
La tête.
La tête. Et vous connaissez votre tête ? Quand vous avez un problème dans votre corps, qui est-ce qui réagit ? C'est la tête. Et qui est-ce qui fait qu'il y a des mouvements qui permettent de protéger le reste du corps ? C'est la tête. Et la tête prend soin. C'est la tête qui réfléchit pour que tout le corps soit fonctionnel. Et pour quelle raison ? Eh bien parce que c'est son rôle. Et la tête dans un corps n'est pas un élément secondaire. Et si la tête va mal, tout le corps va mal. Mais l'autre sens n'est pas vrai. Si vous avez votre jambe qui va mal, la tête n'est pas obligée d'aller mal. Mais si la tête va mal, c'est un énorme problème. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on choisit quelle tête on prend. Il faut faire très attention. Si vous choisissez une mauvaise tête, s'il ne va pas bien, vous aussi, vous n'irez pas bien. S'il vous met dans une mauvaise situation, vous aussi, vous serez dans une mauvaise situation. Mais le contraire n'est pas vrai. La tête peut agir sur le corps, soigner le corps. Et c'est pour ça que c'est très important comme rôle. Et nous, comme chrétiens, on a choisi une tête. Qui est notre tête ? C'est Christ. Et ce que Paul veut que l'on sache, justement, d'abord, c'est que Christ est le chef de tout homme. J'ai pas fini. Dans une église, tous les hommes, les humains qui la composent, devraient avoir Christ comme chef. C'est notre foi. Christ est la tête de l'église qui est son corps. C'est notre doctrine, on la connaît. Mais ici, ce n'est pas le sujet direct. Parce que le mot « homme » n'est pas le terme « anthropos » qui veut dire « humain », mais « andros » qui veut dire « homme masculin ». Le mari. Et le mari, quoi qu'il fasse, quoi qu'il a, de quelle que soit la manière dont il veut agir, il doit donc se rappeler qu'il a une autorité, qu'il doit systématiquement consulter. Et c'est ça un chef, c'est que pour être sûr de ne pas faire mal au reste, je vais demander d'abord à la tête, est-ce que je peux agir ainsi ? C'est le rôle de la tête, s'assurer que le corps soit fonctionnel et qu'il ne fasse pas du mal à lui-même ni à qui que ce soit. Dans ce passage, Paul veut que l'on sache et que l'on comprenne bien que chacun dans le Seigneur vit sous la direction d'un chef. Le mari vit sous la direction directe de Jésus-Christ et doit consulter Jésus-Christ, la parole de Christ, systématiquement avant de faire quoi que ce soit. Et l'irresponsabilité d'un chef, ça serait d'agir en faisant ceci. C'est bon, je sais comment faire. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a des chefs qui agissaient comme cela. Ils avançaient sans consulter l'Éternel ou de leur propre manière. Si vous connaissez l'histoire de Saül, il savait ce que le Seigneur lui a demandé, que c'est Samuel qui devait offrir le sacrifice, pas lui, avant d'avancer. Et il a dit, c'est moi le chef, je prends une décision, je fais le sacrifice moi-même. Et il a perdu son titre de chef aux yeux de Dieu. Il n'a pas été un bon chef. Et un bon chef est quelqu'un qui amène toujours ce que Dieu demande avant de ramener son avis. Mais quel est le problème des Corinthiens? C'est mon avis d'abord. C'est mon avis qui passe en premier. Et ça a influé jusqu'à où? Eh bien, dans la tête des hommes de l'Église. Chacun dans l'Église faisait ce qui lui plaisait, mais c'est aussi ce qu'il faisait dans leur maison. Chacun dans sa maison fait ce qui lui plaît. Comme s'il n'y avait pas de chef. Et c'est le problème. Il n'y a pas de chef. Et quand il n'y a pas de chef, il y a toujours le désordre. Et l'homme n'est pas fait pour être le chef de sa vie. L'homme masculin est fait pour être sous la direction de Dieu, sous la direction de Christ. Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tous les maris. S'il ne laisse pas Christ diriger sa vie, il lui sera impossible de protéger, pourvoir aux besoins et d'amener la bonne santé spirituelle dans son foyer. C'est impossible, parce que nous n'avons pas cette capacité. Et si Paul rappelle cela aux Corinthiens, c'est certainement, comme on l'a dit, parce que les maris se comportaient autrement. Imaginez-vous que l'on pose à ces Corinthiens, ces maris, la question, c'est qui le chef ici? Quelle aurait été la réponse? C'est moi. C'est moi le chef. Mais la question, c'est qui le chef? C'est Jésus-Christ. Le chef. C'est lui que je suis. C'est lui qui est ma tête. Et Christ n'est pas juste un conseiller avec des options. Ah oui, ça je suis d'accord. Ah non, ça je prends, ça je prends pas. Ça je fais, ça je ne fais pas. Si c'est l'ordre de Dieu, il faut le mettre en pratique. Et là, l'ordre de Dieu, c'est que Christ est le chef de tout homme. Donc, vous devez faire quoi? Suivre la parole de Dieu telle que Christ vous l'a enseignée. Mais ce n'est pas comme ça que les Corinthiens conduisent la chose. Et la question que je me pose, c'est qui est, et d'abord aux hommes, qui est le chef de notre vie? Que répondrions-nous? Moi, mes enfants, ma femme, mon voisin, mes amis? Ou est-ce que c'est Christ? Qui est celui que l'on va suivre? Paul n'avait pas de femme. Mais quand vous regardez Paul, vous saviez qui était son chef. Sans même qu'il ait à le dire. Vous savez quel comportement, quelle action il faisait. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour son chef qui est Christ. Christ est le chef de tout homme. Voilà déjà une première chose que nous devons savoir. Le deuxième point, l'homme est le chef de la femme. On rappelle, la fonction de chef de l'homme est dépendante déjà de son rôle de disciple de Christ. Il ne peut pas assurer ce bon rôle si lui-même fait comme il lui plaît. Mais il est chef. C'est pour ça qu'on dit toujours, attention à la tête que vous prenez. Parce que si la tête ne suit pas la tête qui est Christ, vous aurez des problèmes. Il va vous donner la direction qui est la sienne et non pas celle de Christ. Mais c'est son rôle. C'est d'amener une direction. Et le bon chef recherche la gloire de Dieu, comme Christ, qui était un bon chef. Et nous avons des exemples de bons chefs. Josué était un bon chef. Il a dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a amené sa maison dans quelle direction? Vers l'Éternel. Voilà un chef. Et qui amène sa maison là où l'Éternel se trouve. Là où l'Éternel demande quelque chose, il dit, bon, on y va. Et il dit à son épouse, à ses enfants, on y va. Et pas le contraire. Ah non, mais nous, on n'a pas envie de bouger. Ah, si vous n'avez pas envie de bouger, on reste là alors. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ainsi que nous devrions nous conduire. Conduire dans la bonne direction notre foyer. Mais comment? Eh bien déjà, pour savoir si nous sommes un bon chef, faisons un copier-coller de celui qui est notre chef. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous protège, il pourvoit nos besoins et il s'occupe de notre santé spirituelle. Et dans une maison, un bon chef de foyer, qu'est-ce qu'il fait? Il protège son épouse, il pourvoit aux besoins de son épouse et il amène la bonne santé spirituelle à qui? À son épouse. C'est pas différent. Il n'y a pas autre chose que l'on va décaler et dire, bon, chef selon Christ, c'est ça, chef selon moi, c'est ça, chef selon lui, c'est ça. Il n'y a qu'une seule manière de penser pour résoudre tous les problèmes. Celle de Christ, celui qui a toujours été à la gloire de Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Ne cherchons pas une autre manière de faire. Imitons Christ. C'est ainsi que l'on sera des chefs, des hommes sachant faire ce qui est bon. Enseignant la parole de notre chef. Ah, Jésus-Christ m'a dit que... J'aimerais te le dire aussi. Ah, Jésus-Christ m'a fait comprendre que... J'aimerais te le faire comprendre aussi. Ce n'est pas ça le rôle de l'homme dans une maison. De ramener Christ où ? Dans son foyer. Voilà un chef. Et s'il ne ramène pas Christ dans son foyer, ce n'est pas un bon chef. Mais il doit être un chef. Le problème, c'est souvent aussi que l'homme ne veut pas être le chef. On dit souvent, ah, dans le monde, mais faut pas que c'est la femme qui ne veut pas que l'homme soit un chef. Mais moi, je vous dis, souvent, c'est l'homme qui ne veut pas être un chef. Oh non, c'est un problème, ça. Quoi, il va falloir que je rappelle tous les jours ce qui est écrit dans la parole de ma maison. C'est fatigant. Oui, mais si jamais ils ne le font pas, je dis une fois, deux fois et trois fois, ça ne passe pas. Si le Seigneur était comme ça en nous, avec nous en tant que chef, ça fait combien de temps qu'il aurait abandonné? Depuis très longtemps. Mais le rôle d'un chef, c'est de persévérer à amener quoi? L'amour de Dieu dans le foyer. Mais s'il ne veut pas prendre soin de sa femme, il va fermer le livre aussi et il n'enseignera plus la parole de Dieu. Un chef prend soin de celui qu'il aime. C'est comme ça. Et souvent, on inverse la chose. D'abord, on est en train de regarder, c'est celui qui est sous l'autorité qui prend soin du chef. Non, c'est le rôle du chef, de la tête, de prendre soin du corps. Pas le contraire. Et regardez votre corps, c'est bien comme ça que ça se passe. Et pour autant, votre corps vous le rend bien. Et toujours, si on vous lançait quelque chose sur vous, la première partie que le corps protégerait, c'est quoi? C'est votre tête. Le corps, c'est aussi le rendre. Mais si vous en prenez soin, s'il est fatigué, il ne saura pas faire ça. Il va être immobile. Voilà pourquoi le rôle du chef est important. Il est là d'amener quoi? Eh bien, le corps, la femme, à être une aide. Et ce n'est pas la femme de se débrouiller pour en devenir une. C'est à lui d'amener quoi? La parole de Dieu, pour que ça se passe ainsi dans un foyer. Et on a eu un exemple qui est simple pour nous, parce que nous le connaissons bien. C'est que Dieu est le chef de Christ. Et voilà une relation parfaite. Voilà les relations que l'on connaît, qui sont parfois dans notre vie assez moyennes, parce que nous sommes à l'intérieur, mais voilà une relation parfaite parce que nous ne sommes pas à l'intérieur. Il y a Dieu et Christ. C'est l'exemple que l'on devrait voir et mettre en pratique. Imiter Christ là-dedans. Qu'est-ce qu'il est dit? Qui est agréable à son chef en tout temps? Christ, dans cette liste-là. C'est le seul. Dieu dirige, gouverne, prend l'initiative pour Christ. Si Christ agit, c'est parce que tout ce qu'il fait lui a été indiqué par la tête qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans son langage? On peut aller voir, hein, Jean 8. Jean 8 nous le dit simplement, et ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est Jésus-Christ qui le dit. Jésus-Christ confesse quelque chose qu'il a entendu de son chef. Il est l'ambassadeur de celui qui prend soin de lui. Et il dit quoi? Jean chapitre 8, versets 28 à 29. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. S'arrêter au verset 29. Quand nous regardons la relation entre Dieu et Christ, la déclaration de Christ est quand même très tranchée. Le verset précédent nous dit, je ne fais rien de moi-même. Quelle est l'exception? Il y a une exception quelque part? Zéro exception. Et on se dit, ouais, mais il n'y a pas de personnalité ce Jésus-Christ quand même. Hein? Toujours en train de suivre ce Dieu, aucune personnalité. Toujours en train de faire exactement ce qu'il dit. Oui, mais en attendant, quand vous regardez la vie de Jésus-Christ, qui que vous soyez, vous ne pouvez pas dire qu'il ait mené une mauvaise vie. Qui que vous soyez, Même dans le monde, quand ils regardent Jésus-Christ, ils disent « Bon, c'était une bonne personne quand même. » On ne peut pas le nier. Et nous, dans notre vie en tant que chrétiens, on ne le considère pas juste comme une bonne personne, on le considère comme étant parfait. Et il est parfait pourquoi ? Parce qu'il ne fait rien de lui-même. Il fait tout selon Dieu. Il ne prend aucune initiative devant le Père. Toute action que le Fils fait vient de l'enseignement. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vient de l'enseignement qui vient de qui ? Du Père. Il n'y a aucune chose qu'il ne fait pas, qui ne vienne pas du Père. Dans ce passage, Jésus-Christ a appris du Père, de son chef, autre chose aussi. Verset 29. Il ne m'a pas laissé seul. Et il est comme cela, et pourquoi ? Parce qu'il a une relation avec le Père où le Père ne l'a jamais laissé seul. Et nous, en tant que chef, ça voudrait dire quoi pour nous ? Qu'on ne devrait jamais laisser nos épouses seules, abandonnées dans les problèmes, abandonnées, débrouille-toi. Fais comme bon te semble. Non ! Qu'est-ce que le Père a fait avec Christ ? Il ne l'a jamais laissé seul. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à faire quoi ? Toujours ce qui est agréable au Seigneur, à Dieu. Il est Dieu, il est le Seigneur. Et pourtant, il est devenu, dans ce rôle qu'il a entre son Père et lui, celui qui est soumis. Ma question que je vous pose, qui est plus Dieu ? Jésus-Christ ou le Père ? Qui est le plus Dieu ? Parce que dans la logique du monde, il y en a un qui est plus Dieu. Hein ? C'est lequel ? C'est le Père. L'autre, il est le sous-Dieu. Mais vous pensez que dans les maisons, ce n'est pas pareil. Les gens pensent que vous êtes inférieur. Pourquoi ? Parce que vous êtes sous l'autorité de quelqu'un. Mais si vous connaissez la relation entre le Père et le Fils, ils sont un. Et quelle différence il y a entre eux dans leur statut ? Aucun. Ils sont Dieu. Il est Dieu. Et c'est l'exemple que Dieu nous a laissé. Voilà ce que c'est que l'unité. Ce n'est pas de faire des choses en essayant d'être égal dans notre fonction, mais chacun agissant pour sa part. Il y a une tête et il y a celui qui manifeste l'enseignement de la tête aux yeux des autres. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est important de le comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas la relation entre Dieu et le Père dans notre foyer, nous ne comprendrons pas non plus quelle place nous devons avoir. Et nous serons frustrés parce que nous pensons que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu, il vous dit, faites comme nous. Voilà la relation que j'ai avec mon fils. Voilà comment mon fils doit avoir une relation avec vous. Et voilà comment les hommes doivent avoir des relations avec leurs femmes. C'est ce que nous avons lu. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu le chef de Christ. C'est la même chose, c'est le même mot qui lie ses chefs. Et il y a les mêmes choses qui sont demandées. Si nous voulons être un bon chef, que seront nos mots vis-à-vis de nos femmes ? C'est le verset 8 tout à l'heure, verset 29 pardon, du chapitre 8 de Jean. Il nous dit simplement, nous ne la laisserons pas seule. Je te laisserai seule. Est-ce que je vais t'abandonner quand tout va mal ? Non. Je reste avec toi. Mais on vit dans un monde où les gens sont des mauvais chefs. Quand la femme ne plaît plus, qu'est-ce qu'on fait ? Je te laisse seul. Chacun sa route maintenant. Toi va à gauche. Moi, je vais à droite. C'est l'irresponsabilité de l'homme. Mais cela vient d'une chose. Ils n'ont pas connu le vrai chef. Ils n'ont pas connu le modèle que nous connaissons. Ce que Paul voulait que l'on sache. Si vous le savez maintenant, vous savez comment vous devez vous comporter, comme ce qui est écrit. Christ est un chef à imiter. Mais Christ aussi un modèle de celui qui est soumis et que nous devons aussi imiter. Je rappelle le verset. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous savez comment Christ dirige la vie du mari ? Il doit obéir à sa parole. Vous savez comment le mari doit amener la direction à sa femme. Il doit servir Christ et l'amener dans sa maison. Vous savez aussi comment Christ s'est soumis à Dieu, son chef. Jésus-Christ, comme je l'ai dit, est le chef exemplaire, mais Jésus-Christ est aussi exemplaire devant son chef. Imitons alors Jésus-Christ. Ne faisons rien, nous non plus, qui ne soit pas quelque chose pour honorer nos chefs. Rappelez-vous ce qu'on a lu, hein. La vie selon Christ soit donc que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Ne pas porter scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Voilà ce que l'on entend de quelqu'un qui se soumet à Dieu. Voilà ce qu'on entend de quelqu'un qui a pour chef Dieu. Seulement, dans l'Église de Corinthe, comme personne ne sait ce qu'est un chef, et comme personne ne sait se soumettre au chef, on peut lire chapitre 11, verset 4. Il nous dit, « Tout homme qui prie ou qui prophétise à tête couverte déshonore son chef. » Verset 5. « Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise à tête non voilée déshonore son chef. » C'est comme si elle était rasée. Quel est le point commun entre l'homme et la femme dans ces deux versets? Quel est leur point commun? Oui. Mais le point commun où on ne trouve ni Christ, ni Dieu dedans, c'est qu'ils déshonorent leur chef. Et déshonorer son chef, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, prendre peut-être l'initiative avant que le chef ne parle. Et c'est le problème qui est traité. Ce qu'il voulait que l'on sache, c'est quoi? C'est qu'il y a un chef et que c'est la manière dont Dieu place les choses. Mais apparemment, dans l'église de Corinthe, ce n'est pas le cas. L'homme et la femme déshonorent leur chef, ce que Christ ne fait jamais. En effet, chacun des deux ne fait pas ce qu'il faudrait pour honorer le chef. Ils choisissent de faire comme ils veulent, un contre-exemple complet de ce que Christ est, de ce que Christ fait. En effet, honorer son chef, c'est lui donner la place qui lui est due devant tous. Et Jésus-Christ, quand il a parlé, il a donné la place de son chef, la place qui lui est due devant tous. Mais ici, l'homme et la femme sont en train d'indiquer que le chef, c'est eux. C'est eux qui décident de la manière dont ils vont faire les choses. On a du mal à définir vraiment ce qu'est représente ce voile sur la tête de l'homme. Mais une chose est certaine, c'est que pour les Grecs, c'était un scandale. C'est un scandale que cet homme-là ait la tête voilée. Ça ternissait dans l'Église, en tout cas aussi, l'image qu'il devait donner en tant que image de Dieu, celui qui est à la gloire de Dieu. De même qu'une femme mariée, à ce moment-là, qui ne portait pas de voile pour marquer l'autorité dont elle dépend, ternissait l'image de son mari au milieu de cette société. Il ne se préoccupait pas du chef. Il voulait vivre un petit peu quelque chose qui était de leur avis ou qui était pour leur liberté. Le voile dans la société de l'époque était, en tout cas pour la femme mariée, le marque de l'autorité dont elle dépendait. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont voilées, c'est d'abord celles qui ont une autorité, celles qui sont mariées. Pas les femmes de mauvaise vie, ni les esclaves d'ailleurs, mais celles qui avaient une autorité particulière qui était le mari. Et il semble que certains aient pris la liberté de se dire maintenant qu'on est en Christ, toutes ces choses-là, c'est des choses du monde, on ne le fait plus. Mais ils n'ont pas consulté le chef. Ils ne se sont pas posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui allait porter un scandale aux Grecs, aux Juifs et à l'Église de Dieu? Mais c'est pourtant ce que Jésus-Christ a fait en venant sur cette terre. Et il n'a pas cherché à vivre sa liberté, mais il a accepté les restrictions qui étaient les restrictions de l'humanité. Et nous, quand nous sommes dans des sociétés, est-ce que nous acceptons des restrictions? Il ne s'agit pas de péché, mais il s'agit de quoi? D'amener le plus grand nombre au salut. Ne cherchons pas mon avantage, mais cherchons surtout à ne pas être un scandale à qui? Aux gens du dehors, grecs, juifs, mais aussi à ceux de l'intérieur, à l'Église de Dieu. Cherchons à édifier l'autre plutôt qu'à imposer quoi? Son avis. Ça n'a jamais été ça l'enseignement du Père. Ça n'a jamais été ça la manière de vivre du Fils. La manière de vivre du Fils, quand il est venu, est-ce qu'il dépendait de la loi? Est-ce qu'il a mis en pratique toute la loi? Oui, il l'a fait. Et il a vécu en dépendement de ça. Il a vécu au milieu des Juifs comme un Juif. Dieu est venu au milieu des Juifs pour vivre comme un Juif. Et nous, nous vivons au milieu des Grecs, Vivons au milieu des païens. Certes, nous ne péchons pas comme les païens, mais nous n'allons pas commencer à dire aux païens ou à faire des choses qui pourraient être mauvais à l'image des païens. Nous devons toujours rendre un bon témoignage. Comment déshonorer son chef? Eh bien, il suffit d'être un scandale aux Grecs, aux Juifs et à l'Église de Dieu. Et le non-port du voile pour la femme mariée était vraiment un sujet de scandale au milieu du pays. Il ne s'agit pas seulement d'une tradition grecque qui n'est pas respectée, mais plus d'un comportement qui choque même l'Église. Si l'enseignement de Paul est de complaire à tous, quitte à ne pas user de sa liberté, la manière d'agir de cet homme, de cette femme qui agit ainsi, c'est de se complaire à lui-même d'abord, à sa manière de penser. Et c'est ce que Paul reprochait aux Corinthiens depuis le début. Il ne pensait pas aux autres. Il cherchait leur propre intérêt et ne pensait pas aux autres. Et pourtant, l'enseignement qu'il a dit, c'est quoi? De chercher non pas notre intérêt, mais quoi? L'intérêt des autres. Le voile en question ici n'est pas un vêtement religieux. Ce n'est pas un vêtement religieux. Aujourd'hui, quand on parle de voile, on parle de vêtements religieux. Mais il s'agissait d'un vêtement qui marquait l'autorité dont on dépendait pour une femme, le mari. Et dans la société, l'appartenance de la femme à son mari était importante. Toutes les femmes du pays étaient soumises à cette valeur, pas seulement quand elles venaient au culte, mais aussi quand elles étaient dehors. Ce n'est pas en passant la porte du temple qu'il dit « Ah ben c'est le moment peut-être de montrer que je suis soumise ». Non, la soumission à son mari, l'appartenance à son mari, qui devait le voir? Les Grecs, les Juifs et l'Église de Dieu. Donc c'était la manière normale de vivre. Et s'il ne voulait pas vivre cela, autant qu'il se rasait, c'est ce qui est dit. Et raser devant les Grecs, les Juifs et l'Église de Dieu, ça voulait dire la même chose. Que c'était une femme de mauvaise vie. Et que ce soit à l'Église ou à l'extérieur, nous ne devons pas afficher une mauvaise vie, mais afficher une image de bonne vie. Et s'il faut mettre un voile dehors parce que c'est la manière de le faire, pour une femme qui est d'une bonne vie, pourquoi pas? Bon, c'est plus le cas en France, hein. Mais vous avez des endroits où, si les femmes ne le sont pas, vous posez patate, ils disent que ce sont des femmes de mauvaise vie. Ça existe encore aujourd'hui. Et pour nous, parfois, on doit se poser la question. Lorsque je me présente devant les Grecs, devant les Juifs, devant l'Église de Dieu, est-ce que je représente bien le chef que je veux faire paraître? Est-ce que je représente Jésus-Christ? Est-ce que je représente mon mari? Ou est-ce que j'agis à ma propre manière et que les gens me voient moi, oubliant que je marche sous l'autorité de quelqu'un, pour complaire à tous et non pas à moi-même? Imitez Christ. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et il le dit, que vous mangiez ou que vous buviez, et pour toute chose. Voilà le champ d'action. Et souvent, nous gardons le champ d'action sur l'Église et notre manière de voir l'Église. Et l'Église que l'on aime, notre manière, c'est nous. Et si ça ne nous plaît pas, on déménage et on cherche un endroit pour, où on peut mettre en pratique ce que l'on aime. Mais nous ne devons être en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, et se soumettre au lieu où nous nous trouvons. Vous savez, quand vous allez dans une église, il n'y a aucune église qui a exactement les mêmes règles. Ça n'existe pas, hein. Et il y a des gens qui baladent dans l'église en cherchant l'église parfaite. Mais l'église parfaite dont ils pensent, c'est l'église qui se trouve où? Dans leur tête. Si Paul cherchait l'église parfaite, il ne poserait même pas les pieds dans l'église de Corinthe. Il ne poserait pas. C'est l'église, elle est horrible. Mais c'est pour ça qu'il est là. Pour montrer la manière d'agir. Une manière qui se soumet à son chef. Mais nous cherchons toujours une solution qui est notre solution. Notre manière de faire. Et c'est pour ça que les maris quittent leur femme aussi. Pourquoi? Parce qu'ils se disent « Ah non, ce n'est pas la femme que j'avais dans la tête. Au début, ce n'est pas ce qu'elle m'a affiché. Maintenant, c'est plus ce que je vais en chercher une autre. » C'est ça être un mauvais chef, ne pas trouver des solutions. Et la solution, c'est d'imiter Christ. Et c'est ce qu'il veut que nous enseigner, ce que je veux que vous sachiez. Ce n'est pas le reste, hein. Et souvent, quand on lit ce texte, cette partie-là, on l'a complètement oubliée, c'est tout le reste qui nous intéresse. Mais qu'est-ce qu'il voulait que l'on sache? Que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Et qu'il faut imiter Christ dans tout cela. Ne perdons pas de vue l'ordre de Dieu.
si notre manière de vivre déshonore Christ, arrêtons. Comme toujours, le péché, c'est d'être une occasion de chute pour les autres. Si nous sommes une occasion de chute, arrêtons. Stoppons cela. Tout est permis, ça c'est ce qui est dans notre tête. Mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Il semble que certaines personnes dans l'église de Corinthe avaient comme adage « tout est permis ». Ah mais tout est permis en Christ. Hein. Tout est permis, je peux tout, 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 tout. Mais Paul va dire « mais tout n'édifie pas ». Tout est permis, tu as raison. Tu es libre, tu es en Christ, mais tout n'édifie pas. Et si vous n'édifiez pas, c'est ce qu'on appelle péché. Parce qu'on ne vit pas l'amour. C'est l'amour qui édifie. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas d'édification. Et dans une église qui pense à tout est permis, à soi, à lui-même d'abord, il n'aime pas. Il ne parle que pour lui. Chacun agissant, c'est une expression, hein, de son propre chef. Mais n'agissons pas selon le chef que Dieu lui a donné. Au lieu d'imiter Christ dans leur attitude, chacun agit à sa façon. C'est ainsi que l'on déshonore son chef. Dans ce passage que nous avons lu, tout le monde a un chef, sauf Dieu. Et au regard de Dieu, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, je reviens à ma page, en 1 Corinthiens 11, il dit, verset 11, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Verset 12, « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. » Et quand vous regardez ce que Paul voulait que l'on sache, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas de chef. C'est Dieu. Et tout vient de celui qui n'a pas de chef. Et tout ordre, toute chose qui est donnée vient de lui. Et ce qu'il faut comprendre, dans tout cela, c'est que il a fait comprendre qu'il a donné l'homme et la femme. Et qu'à ses yeux, l'homme et la femme sont comment ? Identique. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, et heureusement qu'il y a les femmes, sinon il n'y aurait pas d'hommes, et c'est parce qu'il y a l'homme qu'il y a les femmes. Mais pour autant, il demande à une manière d'agir devant les hommes, au milieu de l'homme, de cette vie dans la société, il nous demande d'agir comme lui, il le fait avec Christ. Et c'est ça, l'amour de Dieu, c'est nous apprendre à vivre quelque chose que l'on ne sait pas faire, mais qui va amener du bien à l'endroit où nous nous trouvons, autant aux Grecs, aux Juifs, qu'à l'Église de Dieu. Les hommes doivent honorer le chef qui est Jésus-Christ et lui rendre sa place. Ne pas nuire à sa réputation. Voilà ce que nous devons apprendre. Comme devraient les faire les Corinthiens, ne pas nuire à la réputation de Jésus-Christ. Mais quand vous regardez la vie de ces Corinthiens, si aujourd'hui une église était comme ça, il y en a peut-être, est-ce que ça nuit à la réputation du chef ? Oui, ça nuit. Et si une épouse a un comportement de sortir et de dire « moi je fais ce que je veux, mais mon mari de toute façon il n'a rien compris, moi j'ai tout compris », ça nuit à la réputation de qui ? De son chef aussi. Il ne met pas en valeur celui que Dieu lui demande d'honorer. Et ma question que je vous pose c'est « qui honorez-vous ? » Vous avez forcément un chef. Le seul qui n'en a pas, c'est Dieu. Et comment l'honorez-vous ? En mettant en avant vous-même ou en le mettant en avant lui. Et c'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Quel que soit le pays où nous allons, en France, Arabie Saoudite, Japon, Brésil, Madagascar, parfois il y a différentes manières d'honorer les chefs. C'est vrai, non ? Vous pouvez utiliser un comportement qui se trouve à un endroit qui déshonore à un autre. Vous devez apprendre à honorer le chef où que vous soyez. Si vous déshonorez le chef là-bas, vous serez un scandale pour les gens du coin. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a appris à vivre comme nous. Il a même été tenté comme nous. Il a fait tout comme nous. De sorte qu'il n'a été en scandale en rien du tout. Et que nous pouvons compter sur ce chef. Qui est le chef de ma vie ? Est-ce que c'est moi-même ? C'est moi qui décide ? Est-ce que je suis comme tout le monde voudrait être dans ce monde, un indépendant. Moi, je suis indépendant. J'ai besoin de personne, ni Dieu, ni maître. J'ai ma liberté. Ou alors, on accepte qu'il y a un chef qui prenne l'initiative à notre place. Car le terme « chef » qui dit « tête » nous explique simplement, comme on l'a vu, que la tête est là pour prendre soin de nous. Alors consultons toujours notre chef, celui qui est donné par Dieu, avant d'agir. Lorsque les hommes sont confrontés au message de Dieu, ils savent que s'ils confient leur vie à Dieu, leur vie ne va pas être la même que celle actuelle. On le sait tous, même ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas avoir de chef. Parce que si ça devient le chef, il va falloir s'éloigner de beaucoup de choses qui sont mauvaises dans notre vie. Et si on se soumet à Dieu, il va falloir s'éloigner de beaucoup de choses mauvaises. Et parfois, nous faisons des choses mauvaises pour ne pas suivre Dieu. Et je pense toujours à certaines femmes dans l'Ancien Testament qui auraient dû se dire « Ah, lui, je l'abandonne comme chef. » Et j'aime bien donner l'exemple toujours de l'exemple que Dieu a laissé, c'est celui de Sarah. Sarah, elle avait un chef qui appelait même Seigneur. Il s'appelait Abraham. Et vous connaissez la manière dont Abraham, parfois, a dirigé sa maison. Et parfois, il a mis celle qu'il est censé protéger en bouclier. Vous connaissez, hein ? Et il a livré, autant tout le monde aurait pu dire, « Alors lui, c'est un mauvais chef, je l'abandonne. » Mais elle était au courant d'une chose, c'est qu'il y a un chef au-dessus de ce chef. Et c'est ce chef-là qu'il a gardé malgré les erreurs d'Abraham. On est d'accord ? Et celle qui, dans la foi, est nommée dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas 10 000. C'est elle, afin que vous en soyez les filles. Et c'est ce que nous enseigne la Bible, c'est, ne vous inquiétez pas, le chef que Dieu vous donne, c'est la part que Dieu vous a réservée. Mais quoi qu'il advienne, il vous protégera. Parce que le chef de tous, c'est qui ? C'est Christ, mais c'est Dieu qui est le chef même de Christ. Acceptez de faire comme Dieu veut. Partagez du temps avec Dieu, se confier en Dieu. Voilà ce que doit faire tout homme. Et toutes ces choses qui sont un salut pour nous, c'est ce que nous devons vivre. Si nous remettons notre vie à Dieu, c'est ça notre salut, la vie éternelle, la vie selon Dieu. Alors nous devons garder la valeur que Dieu a enseignée dans ce passage. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et maintenant que nous le savons, ce que dit le dernier verset au verset 16, retenons-le aussi. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Voilà comment nous pouvons porter notre église. Et je prie vraiment que voilà, nous puissions, dans notre témoignage, montrer celui qui est notre chef, c'est Dieu. Et en Jésus-Christ, que nous puissions imiter ce qu'il nous demande de vivre, tout simplement. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier tout simplement parce que nous sommes des serviteurs qui sont inutiles, qui ne savons pas faire. Des serviteurs qui sont aussi têtus, pensant toujours que nous savons tout. Et pourtant, tu nous l'as déjà prouvé. Nous ne sommes rien, nous ne savons rien. Et ta parole dit même que notre intelligence est déréglée. Mais toi, Seigneur, quand tu es venu dans notre vie, tu remets de l'ordre. Tu règles, Seigneur, ce qui ne va pas. Et Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions toujours garder cet ordre, qu'au-dessus de tout, c'est Dieu le chef. Et que Christ est notre chef. Et que nous avons des chefs auxquels nous devons nous soumettre, tout simplement parce que toi qui nous demandes, et tu sais que c'est ce qui est bon pour nous. Donne-nous, Seigneur, la bonne attitude, l'attitude de Jésus-Christ, les gestes de Jésus-Christ, et la patience de Jésus-Christ, celui qui était parfait en tout point, en tant que chef, mais exemplaire aussi, devant celui qui est son chef, qui était toi. Merci Seigneur, parce que c'est parce que Jésus-Christ a obéi jusqu'à la croix, qui s'est soumis à toi, que nous pouvons dire aujourd'hui, je suis sauvé, je suis délivré. C'était un salut pour nous, Seigneur, merci, parce que tu t'es fait homme pour nous. Merci Seigneur pour cette vie nouvelle, merci pour cette église que nous avons où nous pouvons enseigner la parole, où chacun vient pour entendre quelle est ta volonté. Seigneur, maintenant nous voulons imiter, agir comme tu l'as dit. Et que Seigneur, tous voient que nous avons toi comme chef, que nous avons un Dieu, que nous ne sommes pas seuls, que tu nous accompagnes dans tout ce que nous faisons. Que cette église soit un témoignage encore dans la ville de Nice. Et Seigneur, bénis chacun ici, Seigneur, que chacun puisse repartir en ayant des paroles dans le cœur, eh bien, qui les consolent, mais qui aussi les exhortent à être agréables en toutes choses. Que toute la gloire te soit rendue, mon Dieu. Amen.